Thank you. Radio Libertaire, eh bien, nous avons le plaisir une nouvelle fois d'accueillir notre génial saxophoniste Pierrick Pedron. Comme j'ai l'habitude de de le présenter au concert, le plus grand saxophoniste français du monde.
Voilà. Le plus grand saxophoniste français breton. Voilà.
Ah oui, alors en plus, bon, alors, voilà. On ajoute les régionalismes.
Ah ouais, c'est ça. Bonsoir Yves.
Bonsoir Pierrick, c'est toujours un plaisir de t'avoir dans nos studios.
Merci.
Alors,
partagé.
Je t'ai invité parce que on a pris un peu de retard pour diverses raisons, mais bon, peu importe. D'un album qui est paru le 3 mars dernier, en duo avec Gonzalo Rubalcaba.
Oui.
J'ai eu plein de questions, je vais commencer par la première. Quel est ton regard maintenant qu'il est sorti le 3 mars, d'en parler quelques temps après, où on est sorti du feu de l'actualité, du bouillonnement de la sortie?
Curieusement, c'est toujours un peu pareil. C'est-à-dire que les choses se sont très très bien passées avec Gonzalo Rubalcaba. Et de ce fait, c'est toujours un petit peu d'actualité. C'est-à-dire que c'est peut-être un projet un petit peu intemporel. C'est un duo, donc on aura de toute façon la possibilité de refaire des concerts. C'est prévu de toute façon. Et voilà, c'est un petit peu difficile de répondre à cette question. Évidemment, il n'y a pas le bouillonnement médiatique qu'il y a pu avoir dès la sortie de l'album. Mais c'est quand même quelque chose qui reste vraiment extrêmement gravé dans mon esprit. Et pour moi, il est toujours d'actualité.
Alors, comment est né ce projet de ce... Parce que, bon, moi, j'ai le dossier de presse, mais il faut expliquer à nos auditeurs comment les choses se sont passées. Et puis, la genèse, et puis l'aboutissement.
Alors, je vais essayer d'être assez clair, je ne vais pas m'étendre pendant 2 heures, parce qu'on pourrait, hein. Enfin, de toute façon, on peut, mais... Ça serait peut-être un peu barbant. Alors, voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il faut revenir un petit peu en arrière. C'est-à-dire, je vais revenir en janvier 2020, date à laquelle j'ai enregistré un album qui s'appelle 50-50, avec toute une équipe américaine. On en avait parlé de cet album.
Tu étais venu pour le présenter, que j'avais trouvé formidable.
Ouais,
et l'équipe française aussi, avec Karl-Henri Maurice.
Oui, avec Karl. Ouais, franchement, j'ai beaucoup de chance parce que le Covid... Enfin, j'ai eu de la chance et un peu de malchance aussi, parce que la malchance, c'est le fameux Covid qui est arrivé et qui a foutu un petit peu tous les projets de tournée et de concerts qu'on aurait pu avoir avec cette formation américaine en l'air. Évidemment, parce que ça a duré plus longtemps que prévu. Mais le disque est quand même sorti, on a trouvé des concerts, et j'ai joué ces concerts avec l'équipe française. Le Covid étant terminé, enfin, il paraît, on ne sait pas, je ne sais plus, je ne sais pas, personne ne le sait vraiment. En tous les cas, en ce moment, on en parle moins. Il fallait rebondir sur quelque chose. Avec mon réalisateur artistique, Daniel Ivinek, on avait l'idée, et avec un autre musicien, ami de longue date, Vincent Artaud, on avait l'idée de faire quelque chose d'assez ambitieux, finalement, d'enregistrer un disque avec un orchestre, un grand orchestre, un orchestre symphonique.
Wow.
C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps. C'est quelque chose, comme je le disais, de très ambitieux, donc ça demande large réflexion, on peut pas faire n'importe quoi, les questions étant posées, étant sur la table avec Daniel Ivinek, je me rappelle très bien de ce déjeuner, donc sur les bords de la Seine, un jour d'octobre, et nous étions quatre, il y avait Daniel Ivinek, Vincent Artaud, mon agent Jean-Guillaume Selmer, et moi-même. Et nous étions autour de la table pour envisager une discussion autour de ce projet symphonique. Au fur et à mesure de la conversation, on s'apercevait quand même que c'était quand même un projet très très lourd et qui ne pouvait pas se faire dans l'immédiat parce qu'il faut faire des demandes de subventions. La musique est en partie écrite parce que Vincent Artaud est un illustre compositeur et orchestrateur, arrangeur. On avait déjà établi et on avait déjà enregistré quelques maquettes dans son studio et maintenant avec ce qu'on peut faire sur les logiciels et les ordinateurs, on a quasiment l'impression déjà avec les maquettes de jouer avec un orchestre philharmonique alors que c'est simplement des sons virtuels. C'est quand même très très bluffant. Moi qui suis pas du tout je travaille pas du tout dans un studio, je suis qu'un ouvrier du saxophone. Mais c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, je dois dire, la technologie. Et on se disait que finalement ce projet aurait peut-être lieu, mais en 2025, mais pas avant, parce qu'il y avait des tonnes de démarches à faire pour faire vivre ce projet. Et puis d'un seul coup, je lance une idée un peu farfelue comme ça. Mais de toute façon, toutes les bonnes idées, en général, viennent d'une table, d'un bar, d'une discussion entre amis, quelque chose comme ça. Je me suis toujours posé cette question, je me suis toujours fait cette réflexion-là, que les bonnes discussions, elles sont entre amis, quand on s'y attend, pas forcément. En l'occurrence, on parle et je me mets à parler d'un projet en duo. Je me dis, écoutez les gars, c'est bien sympa tout ça, mais s'il faut attendre 3 ans avant d'avoir quelque chose, moi j'ai besoin de croûter un peu, j'ai besoin de jouer. Et depuis très longtemps, j'ai envie d'enregistrer un album en duo. C'est un fantasme. J'ai envie de faire ça depuis très longtemps. Et curieusement, cette idée a plu à tout le monde. Au départ, on partait sur le projet symphonique et d'un seul coup, on s'est mis à parler du duo. Puisque c'était un projet qu'on pouvait réaliser, théoriquement, assez vite. Très vite, on a parlé pianiste, évidemment. Parce qu'il s'agissait d'un pianiste, il fallait trouver un pianiste. On a évoqué plusieurs noms de grands pianistes français ou américains. Et puis Daniel Ivinec a demandé ce qu'on pensait de Gonzalo Rubalcaba. Alors moi, je lui ai dit, oui, enfin, Rubalcaba, t'es marrant, toi. C'est intouchable, Gonzalo Rubalcaba. On va avoir beaucoup de difficultés à l'avoir. Moi, je le connais pas, déjà. Et Daniel me dit, oui, mais je peut-être quelqu'un qui le connaît. C'est quelqu'un qui travaille avec lui dans son label. Parce que Gonzalo, il a un label. On s'est mis très vite en contact avec lui. Gonzalo, en gros, pour la faire courte, était assez séduit par cette aventure. Il a écouté ce que j'ai fait. On lui a envoyé des enregistrements. Il a entendu parler de moi aussi parce qu'à ce moment-là, il jouait avec Marcus Gilmore, le batteur. Il lui a posé des questions à mon sujet concernant l'album 50-50. Et puis, les choses se sont réalisées comme ça. Donc, je suis arrivé un jour à New York. On s'était mis d'accord sur tout, sur les prix, sur le répertoire. Ça, c'est un autre sujet. Mais avec Laurent Courtaliac, on a fait un énorme travail d'arrangement, surtout lui. Mais en tous les cas, on a fait vraiment en amont un travail phénoménal, même si c'est un duo. Parce que bien souvent, on m'a dit, mais Pierrick, un duo, ça ne s'arrange pas. Ça se joue comme ça. Eh bien non, finalement, ça s'arrange beaucoup. Dans tous les cas, cet album avec Gonzalo est très très arrangé. Et je suis arrivé à New York, dans le studio. Je me suis préparé. Gonzalo était en retard. Il est arrivé une heure après moi. On s'est parlé deux secondes. Et puis très vite, on est rentré dans la pièce d'enregistrement. Et on a commencé à jouer un petit blues comme ça, qui n'avait rien à voir avec le répertoire. Et tout de suite, on s'est un petit peu connu, voilà, entre parenthèses, un petit peu testé, si je puis dire. Enfin, moi, je savais très bien à qui j'avais affaire, mais lui, probablement pas. Et de cette manière, on s'est très vite aperçu que c'était possible. Je prenais un risque, attention. Mais j'aime bien les risques, moi. On en pourra en reparler si tu veux, mais moi j'adore ça. Et puis on a commencé à jouer le répertoire, et puis l'histoire elle est partie.
Alors justement, à propos du répertoire, tu disais que c'était plus complexe que ça de mettre en place ce choix.
Ouais, c'est complexe parce que Daniel a fait un énorme travail là-dessus, parce qu'il est directeur artistique, et l'idée qu'il avait, c'était donc qu'on enregistre des standards de jazz, mais qu'ils fassent un petit peu partie de l'éventail de tout ce qu'il y a pu avoir en matière de standards. C'est-à-dire que ça partait des années 20, par exemple, jusqu'aux années 80, par exemple, ou 90. Je n'ai pas exactement les dates des morceaux qu'on a joués, mais il y a des thèmes qui sont très anciens et d'autres qui le sont moins. Et prendre comme ça plusieurs compositeurs, et on a choisi des morceaux. On s'est mis d'accord. Alors là, c'était un travail avec le trio, c'est-à-dire avec Laurent Courtaliac, Daniel Ivinec et moi-même. On a choisi des morceaux. Et puis, une fois que les morceaux étaient choisis, on s'est mis au travail avec Laurent. Et Laurent Courtaliac me proposait des arrangements. Moi, j'allais très souvent chez lui travailler. Et puis, je lui disais, ouais, ça, c'est pas mal. Ça, j'aime moins. Ça, on pourrait peut-être faire ça. Ça, on pourrait peut-être... Et puis... Finalement, on s'aperçoit que travailler avec des gens qui sont extrêmement tolérants et qui n'ont pas trop d'ego à ce niveau-là, ça passe vraiment bien parce qu'il y a une... Il faut savoir, dans ces cas-là, quand on travaille en équipe, accepter ses erreurs et accepter de dire ce qu'on propose, ce n'est pas toujours bien. Et moi, je proposais des choses des fois et Laurent ou Daniel me disaient moi, mon avis, non, je ne ferais pas ça. Faut se dire, ah bon, bah, ok, s'ils le disent, c'est qu'ils ont probablement raison. Et l'inverse également. Donc on a travaillé ces morceaux comme ça, voilà. en essayant de faire des histoires sur chaque morceau, d'annoncer des intros, faire des interludes, imaginer des passages un petit peu avec des tempi différents. Enfin voilà, tout
des
ça
tempos,
c'était
des tempos. Hein. En français, ça...
Ouais, des tempos. Ouais.
Tempi, c'est en italien.
Ouais, mais c'est mon côté...
Breton.
Mon côté classique.
C'est ça. Alors justement, quelle est la part... parce que, bon, un duo, en même temps, ça permet une énorme liberté. Et donc, quelle est la part d'improvisation, de moments où ça se barre, où ça se barre pas du tout.
Ça se barre tout le temps, en fait.
Voilà, c'est ça l'idée.
C'est ça l'idée, justement. Je ne veux, il n'était pas question pour moi d'avoir des références musicales. Je voulais avoir une liberté totale. Et vraiment avoir la possibilité d'enregistrer en duo et d'avoir. Et de me poser aucune question quant à la qualité des phrasés ou me dire tiens c'est ce 2-5-1, enfin bon c'est un peu technique hein, pour les auditeurs, mais jouer des phrases, essayer de jouer des phrases qui viennent vraiment du fin fond de mes entrailles quoi, et pas faire des choses que j'ai déjà récitées probablement une maintes et maintes fois pour faire des exercices de style. Je voulais que ça vienne vraiment de ma personnalité.
Et alors, c'est moi ce que j'apprécie évidemment dans ce disque. En plus, c'est très personnel parce que moi, je joue en duo aussi avec un saxophoniste, lui ténor. Mais quelle est la part de... Et donc, j'aime bien ce cadre-là parce qu'on peut, quand on a la grille harmonique en tête d'un morceau, on sait où on doit aller, où on doit finir.
Enfin, ouais, c'est, exactement.
Y a un chemin sur lequel.
Ouais.
Ce que disait Pat Martino quand je l'avais écouté, il avait une image qui était assez marrante. Il dit le jazz, c'est quand on va poster une lettre à la boîte aux lettres, on sait où se trouve la boîte aux lettres, mais on a plusieurs chemins pour y aller et à chaque fois on va prendre pas forcément le même.
Bah, si on aime l'aventure, on va prendre un chemin différent, c'est
ouais.
sûr.
C'était un peu cette idée-là. Et donc ouais. justement, c'est pour ça que quand j'entends le mot arrangement, je me demande dans quelle mesure.
Ah oui, non. Alors, c'est intéressant. Bien sûr, les arrangements, c'est le squelette. L'improvisation, c'est quelque chose de différent. Je voulais pas ouvrir une page du Real Book, qui est donc la Bible des standards de jazz, et de me dire voilà, on joue le thème tel qu'il est écrit, et puis on improvise et on rejoue le thème. Ça m'intéressait pas. Parce que, déjà par sécurité, parce que je trouve pas ça très original, d'une part, et je voulais que l'énoncé soit original. C'est-à-dire que pour permettre encore plus de liberté, il fallait donner quelque chose, un sens au thème qui soit différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc, il fallait qu'il soit travaillé. Il n'est pas improvisé, le thème, forcément. Mmh. Il est écrit. Mmh. Donc, nous, on doit, on doit suivre les conventions et suivre exactement ce qu'il y a d'écrit, respecter le nombre de mesures, respecter les notes, la couleur des accords. Ça, c'est très important. Voilà. Par contre, une fois qu'on est sur la grille, là, chacun son chemin. Et là, prendre des risques. Et c'est pour cette raison aussi qu'on s'est bien entendu avec Rubalcaba. C'est parce qu'on a, d'une manière assez modeste, on parlait évidemment beaucoup, puisqu'on s'entend très très bien. Et on a un peu la même vision de l'improvisation. C'est, on part d'un point et on arrive là. Mais entre les deux, il faut faire parler sa personnalité, il faut faire parler son corps et ce qu'on connaît. Mais ce qu'on connaît ne doit pas forcément apparaître. Ça fait partie de l'inconnu, en fait. Il y a une bonne part d'inconnu dans tout ça, et c'est ça qui me plaît dans la musique. Il doit y avoir une part d'inconnu dans la musique, sinon c'est de la récitation, pour moi.
Je te propose qu'on en écoute un extrait, un morceau même.
Je vous en prie.
On va commencer par le premier, donc c'est un standard de chez Standard, ouais. de Jérôme Kern, qui s'appelle The Song Is You.
Absolument.
Donc, Laurent, quand tu veux, pour et puis après, on Tu veux pas, c'est ça?
Il n'aime pas de son lisio. Laurent.
Si, il veut.
Ah bon.
Thank you. Jazz Libre, Radio Libertaire, donc on n'arrête pas de parler. La fin de The Song Is You, c'est évidemment écrit.
Ça, c'est un arrangement que j'ai fait, ça.
Voilà.
Ouais. Je me suis inspiré du thème, mais en voulant faire quelque chose d'un petit peu, un peu barré, comme ça. Faire un tuti. On dit comment en français, tuti ? Tuto ?
Non, tuti. Tuti. Ouais, c'est compliqué, le français.
Voilà. Non, c'était pour rebondir. Un petit peu. Non, écoute, c'était. Je me disais qu'il manquait un petit truc. Donc, j'ai créé. On appelle ça un spécial. Voilà, un spécial. Donc, un petit duo comme ça de piano avec des croches, des doubles croches, des mises en place un petit peu sophistiquées. Et en rappelant le thème un petit peu, c'est un thème dans un thème. Voilà, c'est un truc que j'avais écrit.
Alors c'est marrant parce que ça me fait un peu penser, je sais bien que comparaison n'est pas raison, mais à quelques gimmicks du quintet avec Jacques Vidal.
Ah bah... Oui, rien d'étonnant parce qu'en fait, je crois que tu connais bien ce quintet-là.
Oui.
donc, si tu connais bien ce quintet-là, tu sais que je joue dedans.
Oui.
Et tu parles de quoi ? Des improvisations ?
Justement de cette petite écriture-là, comme ça.
Ah, peut-être. Ouais. Tu sais, ça fait partie des influences. Hein, Jacques, je joue avec lui depuis tellement longtemps maintenant que ça fait. Il y a forcément. Des choses qui restent ancrées complètement.
Alors j'ai une question bête qui me taraude qui m'est venue aujourd'hui. C'est marrant, c'est la première fois que j'ai cette idée en tête, mais je te la confie tout de go.
Mm-hmm.
Quand on est un musicien comme toi ou comme tous ces grands musiciens qui savent tout faire, qui ont joué tout dans tous les sens, en haut, en bas, en travers, enfin, qui sont capables de refaire tout de manière absolument parfaite, comment on peut être encore, c'est une question, hein, en admiration devant d'autres musiciens?
Ben en fait, on est en admiration devant tout ce qu'on n'est pas capable de faire ou de ce qu'on n'est pas.
Oui, mais là, toi, tu es capable de faire absolument tout.
Non, non. Oh ben non, si j'étais capable de tout faire, ça serait inintéressant, le saxophone. Hein. Ce serait que des exercices de style, hein, parce que je me dirais, tiens, moi, je vais jouer comme machin, tiens, je vais jouer comme machin. Tiens, non, c'est la découverte de... C'est des sons différents. Chaque saxophoniste a un son différent. Donc, moi, quand j'écoute le son d'un autre saxophoniste, je me dis, oh là là, quel magnifique son il a, mais je pourrais jamais l'avoir. Non, à moins d'être dans le mimétisme et de vouloir faire une imitation parfaite, ce que font des musiciens qui ne jurent que par leurs idoles, donc essaient de capter la moindre émotion de tout ce qui est possible, l'imitation, c'est-à-dire... C'est un dédoublement presque de la personnalité. Mais ça m'intéresse pas. Mais c'est impossible d'être quelqu'un d'autre, de toute façon. Donc, oui, je suis toujours en admiration, moi, devant ce que je suis. Mais pas que la musique. Hein. Je peux être en admiration devant un type qui a une culture, une énorme culture de littérature, par exemple, que je n'ai pas. Je me dis, mais mince, qu'est-ce que je voudrais, moi, comme ça, lire 3 bouquins par semaine. J'adorerais ça, mais j'ai pas la personnalité pour le faire, et je le fais pas, je le fais de temps en temps. Là, en ce moment, je lis un petit peu, mais parce que je me dis qu'il faut que je lise, et que ça peut pas me faire de mal. Mais parce qu'on est tellement amené à regarder son portable,
et on est sollicité par
tellement de fractions de choses.
Là, je restais dans le cadre purement musical, c'est-à-dire que, est-ce que l'idée, enfin, pour moi, il y a pas de problème, parce que je reste un éternel débutant en matière de musique, mais j'ai en même temps une grande connaissance du spectre depuis le temps que...
Mais bien sûr.
Mais l'idée, c'était, est-ce qu'en tant que musicien, on arrive encore à apprécier et admirer d'autres musiciens? Voilà, c'était cette espèce de... Quand on a cette capacité technique à être virtuose, est-ce qu'on peut...
Oui, ça ne s'arrête jamais, ça. Il y a peut-être un moment dans la vie, quand j'avais en ce qui me concerne pour le jazz, ça a surtout été entre... la découverte, vraiment, ça a été entre, je dirais... 20, 25 ans et 45 ans, où là, vraiment, tout, je prenais, je buvais tout ce que j'entendais. Maintenant, j'écoute beaucoup moins de musique, parce que j'ai plus envie. Ou alors, et puis, encore une fois, je suis amené à regarder, comme bon nombre de mes collègues, ce qui se passe sur les réseaux, donc je vois plein de choses différentes, ce qui m'empêche peut-être de... C'est bien pour découvrir des choses, mais c'est la découverte de l'éphémère aussi, parce qu'on écoute des choses qui durent 10 secondes peut-être, ou une minute, mais écouter un disque en entier, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Si, peut-être la dernière fois, il n'y a pas très longtemps, c'était probablement le Requiem de Maurice Duruflé, donc tu vois, ça n'a rien à voir avec le jazz, quoique... Mais alors ça me fascine vraiment, quoi. La musique classique, l'écriture, les requiem, je pense avoir une certaine fascination pour ça, et je trouve que... admiration, voilà. Au niveau de l'improvisation aussi, je reste toujours un petit peu accro à mes débuts. Il y a des Charlie Parker, par exemple, pour nommer que lui, je l'écoute pratiquement plus parce que J'ai du mal à l'écouter maintenant. Je suis trop ému en fait en l'écoutant.
Ah, c'est marrant parce que
là, c'est-à-dire que quand par hasard pour me faire plaisir, on dit tiens, on va te mettre ça par cœur, ça prend une autre dimension pour moi. C'est-à-dire que c'est même plus la dimension de la musique, c'est la dimension de la vie. Il y a quelque chose d'extrêmement qui me fragilise à ce moment-là et qui me donne envie de dire au gars: change, s'il te plaît, mets autre chose. Ah bon, t'aimes pas? Non, je peux pas dire que j'aime pas. Au contraire, j'aime trop. Donc, s'il te plaît, j'aime tellement ça que...
Ouais, moi, ça me fait ça avec Billie Holiday.
Bah, tu vois...
Je peux pas l'écouter, c'est trop émotionnel. Même en parlant, ça me...
Ouais, c'est ça. Il y a des cas...
Ou Billie Evans, je les achète, mais je les écoute pas.
Ouais, il y a des cas comme ça. Enfin, moi, j'ai beaucoup écouté Parker, par exemple. Hein. Ça a été... Puis un jour, je me suis dit que non, je pouvais plus. Je suis pas non plus extrémiste. Je veux dire, si je dois écouter, si on me dit tiens, écoute ça, je suis sûr que tu connais pas. Évidemment, je vais y aller parce que c'est peut-être un truc que je connais pas. On va peut-être redécouvrir des choses de Bird. Voilà, il y a des musiciens comme ça. Coltrane, c'est un peu pareil.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Tu vois,
c'est comme dans le film de Tavernier,
Round Midnight.
À un moment donné, il fait dire à Dexter Gordon. S'il va bien, enfin bon, Dexter dit, enfin le personnage que joue Dexter dit quelquefois la beauté peut faire mal.
Ah ben c'est évident.
C'est ça. Hein, ouais. On est vraiment au cœur de ça.
Ouais.
Sans aller plus loin dans le côté psychanalytique, je voudrais quand même qu'on écoute le deuxième thème, et pourquoi avoir choisi le esthétique de George Russell, qui est une sorte de borne musicale très très particulière.
On sait que, alors, esthétique déjà, c'est une démarcation, puisque c'est la grille de Love for Sale. C'est la grille de Love for Sale.
De Cole Porter.
Oui, exact. Esthétique. Un thème un peu, pas facile à jouer, parce qu'il y a beaucoup de notes, parce qu'il y a des intervalles pas faciles. C'est pas mon idée, encore une fois. Je dois beaucoup à Daniel, hein, qui a proposé ce morceau. Ah, esthétique, ce serait bien de le jouer. Ok, pourquoi pas. C'est quand même un sacré morceau, je le connaissais, ce thème. Mais je me dis, oui, c'est bien de faire un thème comme ça, c'est-à-dire que, Song Is You, esthétique, Si tu vois ma mère, Béchet, c'est des thèmes complètement différents, mais qui ont une partie très importante dans l'histoire de cette musique, et esthétique, c'est un développement harmonique, c'est une mélodie qui ressemble, qui est différente, qui appartient à son compositeur, qui est assez saccadé, qui est inchantable de toute façon. Et dans le jazz, il y a aussi des choses inchantables. Et puis j'ai fait un arrangement avec, parce que j'ai une culture rock aussi. C'est un temps que j'écoutais le rock progressif beaucoup, et le groupe Yes notamment m'a marqué. Et il y a toute une partie de toute l'intro, c'est en référence. La référence, c'est un des morceaux d'un morceau de Yes. Voilà. Donc j'ai voulu mélanger un peu tout ça.
Oui, oui, oui. Alors moi je trouve que en plus c'est relativement gonflé parce que esthétique c'est un thème en grand orchestre. Enfin, dans la version originale je crois que c'était un sextet ou un septet avec Dolphy, ouais. Ted Turson, tout ça.
Ouais.
Mais du coup de le réduire
en duo,
ouais. On est presque dans une démarche de classique de réduction d'orchestre.
C'est ça. T'as complètement raison.
Et bon, on va l'écouter.
Allez.
Jazz Libre Radio Libertaire 89.4 en direct des studios avec Pierrick Pedron pour nous parler de son album qui est sorti le 3 mars en duo avec Gonzalo Rubalcaba. On disait qu'il était, bon là on est très proche de la musique contemporaine, un peu l'esprit Olivier Messiaen, le marteau sans maître, tout ça. Toute cette partie c'est improvisé.
Ah, complètement.
Ouais. Et par contre, le début, oui, pour ceux qui connaissent Yes,
ouais. je morceau sais... Change, il s'appelle.
Ouais, c'est ça.
Change, le morceau qu'il y a dans 90-125.
Ouais, c'est avec cette pochette grise, argentée.
Avec un sphère.
Oui, une sorte de
triangle. C'est
là où il y a Honor sphère, of the Lonely Heart.
C'est une sphère, je ne sais plus. Ouais. Oui, c'est ça, ouais.
Alors,
c'est une sphère colorée.
Ouais, ouais, oui, ouais. C'est un truc fait à l'ordinateur.
Ouais, c'est ça.
Pas, bon. Ouais. D'ailleurs, il y a une version absolument épouvantable de remix de Lonely Heart qui figure sur une édition un peu collector que j'ai téléchargée, mais c'est épouvantable. Ça dure des heures et des heures et
ouais.
Avec les breaks. Enfin bon, bref, passons. Donc ensuite, troisième titre, c'est Loans de Carla Bley. Alors, donc on a passé. Un hommage à Carla juste avant, parce que c'est une compositrice, chef d'orchestre, qui a compté énormément dans l'histoire du jazz. Et Lone, c'est vraiment, je trouve, une très belle composition. J'ai passé la version en duo avec Steve Swallow, où on est vraiment dans l'épure, parce que c'était pas une pianiste virtuose,
ouais.
C'était pas du tout ça, mais bon, elle a pris sur elle à la fin de jouer. Et en même temps, je trouve que ça fait du bien, cette espèce d'assaise, d'une certaine manière. Et donc, tu nous m'as dit hors micro qu'il y avait, tu avais une anecdote particulière, donc nous sommes toutes oui.
Oh, je ne sais pas si je vais la raconter.
Oh, alors.
Non, oui, alors oui, effectivement, c'est une anecdote. On avait donc 8 morceaux de près à enregistrer. Et puis, au bout du 7e morceau, je ne sais plus lequel était-ce. Je dis à Daniel, on était pratiquement à la fin du deuxième jour d'enregistrement. Et je lui dis, tu sais quoi, on va arrêter là. On a suffisamment de musique, on a 7 morceaux. Et puis j'étais heureux, mais alors j'étais vraiment très heureux de ce qu'il y avait déjà. Et je lui dis, mais on n'a pas besoin de faire Lance. Parce qu'en fait, Lance, finalement, c'est le seul morceau qui n'est pas arrangé. On l'a joué simplement comme sur la partition. Et je me dis, voilà, c'est un morceau qui n'est pas arrangé, et que c'est ça. Et bon, on a suffisamment de morceaux. Et puis j'étais fatigué. J'étais vraiment fatigué émotionnellement. J'avais vécu un rêve, en fait. Éveillé. Et Daniel me dit, non, on l'enregistre. Ah, j'étais sûr, je ne voulais pas. Hein. Il dit, oui, on l'enregistre. Et on l'enregistre. On commence à faire une version. Et là, je sentais qu'il y avait un truc, mais qui dépassait encore ce que j'avais vécu auparavant. On a fait 2 versions de ce morceau-là. Et j'ai la deuxième version, c'est-à-dire celle qu'on a sur le disque, elle était émouvante. C'est-à-dire qu'on était pratiquement tous en train de pleurer dans le studio. Il fallait que ça parte, c'est-à-dire que moi je jouais, je sens qu'il vibre un peu, qu'il est un peu fragile, il y a très 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 peu de notes, Gonzalo avait décidé aussi de jouer dans la pureté totale, d'en faire le moins possible, et on était extrait, ouais c'était la conclusion idéale. Pour cette rencontre et cette magnifique rencontre et cet album. Donc, il a bien fait, encore une fois, Daniel, de nous avoir incité à jouer ce sublime morceau, cette magnifique compo de Carla Bley.
Alors, justement, ça m'amène à une toute petite histoire, mais en introduction, est-ce que, justement, Gonzalo, le fait de se restreindre, d'aller au minimum, est-ce que c'est un exercice difficile ou pour lui?
Moi, je pense qu'à une certaine période de sa vie, on a dû tellement lui dire qu'il était virtuose et qu'il était tellement virtuose, qu'il était sur-virtuose et que... On lui a beaucoup... Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, on parlait beaucoup, il avait le vent en poupe à ce moment-là, énormément, Gonzalo Rubalcaba. Dans les années 90-2000, c'était vraiment le... C'était le musicien que tout le monde connaissait. Mais il y avait aussi des mauvaises langues qui disaient que c'était beaucoup trop compliqué, il y avait beaucoup trop de notes, que c'était trop chargé, que c'était trop dans la démonstration, trop dans la virtuosité, trop dans tout. Et il me semble qu'à une période de sa vie, il a dû justement mûrir et se dire, hop, voilà, je sais qu'il y a ça, mais vous inquiétez pas les gars, je suis aussi capable de faire autre chose. Et même dans sa discographie, avec Charlie Haddon notamment, on sent que là, il y a un frein, mais ce n'est pas un frein... c'est un frein... c'est quelque chose qui fait aussi partie de ça. C'est une sensibilité qui fait partie de sa personnalité. C'est-à-dire qu'au moment où il était dans le jouage, le jeune cubain qu'on venait de connaître, qui venait de signer chez Blue Note et que tout le monde découvrait, y compris les Ziggy Gillespie et qui le prenaient dans leur groupe et tout, où il avait ce truc de jeune fougueux qu'on a tous, on passe tous par là parce qu'on a envie, qu'on nous dise, on est un petit peu, voilà, c'est l'ego qu'on prend un petit qui est mise en valeur, on est content. Quand, oh, dis donc, t'as une secrète technique, ouais, super. Ça prend presque le dessus. C'est un peu le salon de la musique, quoi. On est heureux, même toujours. Ça marche toujours comme ça sur Instagram ou sur Facebook. On aime bien voir les gens qui ont la virtuosité. C'est quelque chose qui plaît aux gens, la virtuosité. Et avant d'abandonner l'idée de faire que de la virtuosité ou faire que ça, eh ben, il faut vivre. Il faut subir de l'expérience, ou ne pas la subir, la vivre, tout simplement, vivre une certaine expérience, sorte d'apaisement et sorte d'amour qui naît, et puis on a envie d'exploiter un petit peu ça, et c'est probablement ce qui est arrivé chez ce grand monsieur.
Alors, voilà. C'est très rigolo parce que en fin 96, tout début 97, j'étais à Cuba. Je suis resté un mois là-bas et je voyageais du nord au sud. Et alors, la culture musicale à Cuba, c'est invraisemblable. Je ne sais pas si tu as été.
Jamais, malheureusement. Mais
alors, bon,
ma femme, oui.
96-97, c'était certainement pas comme ça l'est maintenant. En plus, c'était en plein hiver. On a passé le réveillon du jour de l'an au commissariat de police de Santiago.
C'était pas mal.
C'était rigolo. Une
belle histoire.
C'était très Tintin, la machine à écrire. Le seigneur supérieur, on le réveille pas.
Tintin à Cuba.
Ouais, c'était vraiment ça. C'était assez étrange. Parce qu'en fait, Sylvie, ma femme, s'était fait voler. Elle avait une guayabera sur le... Elle s'est fait voler le truc, pensant qu'il y avait sûrement quelque chose à l'intérieur, ce qui n'était pas le cas, mais bon. Donc, on nous a conseillé de déposer plainte, donc on a passé la soirée du réveillon au commissariat. Enfin, bref, tout ça pour dire qu'il y a une culture musicale extrêmement forte. Et à un moment donné, je fais le plein d'essence à une station d'essence, et il y a le pompiste qui vient me voir, il me dit, il commence à discuter un peu le bout de gras. Je parlais un peu espagnol à l'époque, maintenant plus du tout. Et il me dit, tu fais quoi? Je dis, bah voilà, moi je suis pianiste de jazz, je me balade. D'ailleurs, vous avez un super musicien, vous, Gonzalo Rubalcaba, m'attendant à ce qu'il me dise, oh, je connais pas. Et le mec, c'est très jeune en plus, il me dit, ah oui, mais Gonzalo, il en fait trop.
Punaise.
Et là,
un cubain,
ouais. Le pompiste cubain de Cienfuegos.
Oui, c'est ça.
Donc là, ça m'a foutu une grosse, grosse claque, parce qu'il y a une culture générale énorme. Ils n'avaient pas un rond. Hein. C'est les trois bonnes raisons d'aller à Cuba, c'est le rhum, les filles et la musique. Mmh. Les trois raisons de détester, c'est le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Hein. Donc bon, voilà, ça donne vraiment l'état d'esprit. Sauf que bon, c'est un peuple extrêmement éduqué, avec une connaissance énorme de beaucoup de choses, et la musique particulièrement. Quand t'as un pompiste de 25 piges qui te dit Gonzalo, il en fait trop, c'est...
Voilà. Ouais, il fait partie... Gonzalo, c'est quelqu'un d'extrêmement connu, d'extrêmement populaire là-bas.
Mais le jazz n'est pas tellement populaire.
Mais c'est pas forcément... Oui, mais Gonzalo, est-ce qu'il... Il est effectivement musicien de jazz, mais pour les Cubains, il n'est peut-être pas musicien de jazz.
Mais il est cubain avant tout.
Exactement. Et puis peut-être que les Cubains lui en veulent aussi d'être partis aux États-Unis. Bon, c'est une histoire un peu... Bon,
maybe.
D'autres histoires, mais effectivement, ça montre effectivement que le peuple cubain est très associé à ces artistes et fait très attention à ces artistes et les écoute surtout.
Très impressionnant. Bon, on va écouter donc le thème de Carla Bley, Lones, qui veut dire pelouse au pluriel.
Ouais. Ça, j'ai pas compris par contre.
Non, c'est assez spécial, mais en tout cas, c'est un thème sublime.
Oh là là, beauté.
C'est
beauté
parti. Pure.
Thank you.
Jazz Lib, Radio Libertaire. Pierre-Yves Pédron, dans nos studios, donc, on parlait de transmission. Mmh. Et ben, ça m'amène justement à la chanson de, au thème de Sidney Bechet, Si tu vois ma mère.
Ouais.
C'est. j'ai pas de. Comment dire. Sidney Bechet, c'est pour moi, c'est un grand musicien qui a bercé mon enfance. Parce que on écoutait Les Oignons à l'époque. Le jazz était assez populaire encore jusqu'à la fin des années 50 et au tout début des années 60. Après, le rock'n'roll est arrivé. Et Bechet avait. Bon, en plus,
c'était une star.
Il habitait en France. Enfin, bon,
c'était une big star, Sidney Bechet. Il y avait de la queue pour aller l'écouter à l'Olympia. C'est complètement dingue.
Et alors, en plus, il y a un gros hiatus que tout le monde dit. Tous ceux qui ne connaissent pas disent ouais, Sidney Bechet, c'est la clarinette, mais non, pas du tout. C'est du soprano.
Eh oui. Saxophone soprano.
Je ne sais pas si c'était le premier, mais en tout cas, il a joué du soprano.
Ah ouais, oui.
Alors, il y a une anecdote, parce qu'en fait, il voulait. Il était rentré dans l'orchestre de Duke Ellington, mais Duke Ellington aimait pas le fait qu'il fume des pétards et il l'a viré.
Pourtant, il était bien accompagné, hein, Duke. Hein. Dans son groupe, il y avait quand même quelques experts en la matière.
Wow, oui.
Mais comme disait Gonzalo Balcaba, quand on jouait ce morceau-là, il disait toujours « If you see my mother, move ».
Et donc, pourquoi le choix de ce titre particulièrement ?
C'est pas moi, encore une fois. C'est une liste qui a été. Ça faisait partie des morceaux qu'on pouvait enregistrer. Et puis, c'est vrai que c'était important qu'il soit là. Honnêtement, je n'étais pas pour le jouer, ce morceau. Je trouvais qu'il allait ailleurs. Je trouve qu'il avait une couleur différente des autres. Et je n'étais pas. Très chaud pour le faire. Encore une fois, il faut faire confiance en son équipe. Et les gars me disaient tout. C'est important de le faire. C'est important de le faire parce que ça fait aussi partie de l'histoire. Mm-hmm. C'est quelqu'un de très important ici en France, Sidney Bechet. Et tu verras que tu ne le regretteras pas. J'adore la mélodie de ce thème-là. Honnêtement, j'adore la mélodie, mais je trouvais qu'il était à part. Il n'était pas comme les autres morceaux. Ça ne veut pas dire qu'il était moins bien. Je le trouvais que de manière esthétique, il était différent. Et il fallait simplement le jouer avec Gonzalo et puis le répéter aussi avec Laurent pour m'apercevoir que non, ça, c'était top, c'était super. Puis la mélodie, oui. Elle est magique.
Moi, j'ai le sentiment que les jazzmen se sont toujours réappropriés n'importe quel thème pour en faire un truc personnel. Donc, à la limite, quand Cecil Taylor joue des thèmes de Scott Joplin à la Fondation Mahé dans les années 70, bon, ça choque que ceux qui veulent bien être choqués. Bon, à l'époque, il y avait le free, les adeptes du free, enfin, c'était très binaire comme vision. Bon, depuis, heureusement, les choses se sont un peu calmées. Mais je crois que se réapproprier un thème, ça fait partie de la démarche logique d'un jazzman.
Oui, c'est une. C'est-à-dire qu'on a tellement la possibilité, on a tellement de compositions, il y a tous les thèmes de toutes les chansons de Broadway, il y a tous les standards de musiciens qui sont. Les morceaux de musique de certains musiciens qui sont devenus des vrais standards. Il y a forcément de très très belles choses, les compositions de Thelonious Monk, qu'on a envie de se les approprier parce qu'elles sont tellement belles, celles de Duke aussi, et elles nous offrent en plus la personnalité, la possibilité de qu'on puisse s'exprimer dessus et qu'on puisse évoluer d'une certaine manière. C'est infini finalement, c'est difficile à dire.
C'est ce que j'essaye, moi, de faire passer dans mon émission. C'est justement de dire que, à la limite, presque, enfin, en poussant la logique vers l'absurde, peu importe le thème, peu importe l'écriture, qui soit écrite en 1900 ou hier, le jazzman va se le réapproprier pour en faire quelque chose à lui. En fait, c'est ça.
C'est ça, exactement.
Et c'est ça le truc génial.
Oui, absolument.
Et finalement, moi, ce que j'essaye aussi de dire, et je m'arrête pour après qu'on écoute le thème, mais ce que j'essaye de dire, c'est que pour moi, le jazz, c'est une seule chose, une seule même musique. Elle a, entre Sidney Bechet ou Scott Joplin et Pierre Pedron, c'est la même chose. C'est juste qu'elle a évolué dans le temps différemment, en se complexifiant, mais pour moi c'est la même musique. Et je crois que c'est absolument ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça qu'on met le bebop, le swing, le machin, le truc, le bidule, pour moi c'est la même chose en fait, c'est juste une évolution dans le temps avec des individualités fortes qui ont entraîné d'autres vers un chemin, comme Coltrane par exemple, ou Shep vers le free, ou voilà, Bill Evans sur une vision romantique, enfin, tout ça c'est la même chose en fin
de compte.
Enfin bon, c'est...
C'est un point de vue que je partage complètement.
Et qu'il n'y a pas de raison d'aimer... on a évidemment tous des goûts, mais on n'a pas de raison d'aimer plus l'un que l'autre, finalement.
C'est un peu valable pour tous les styles de musique, hein, finalement. On s'aperçoit qu'il y a une évolution. En ce qui concerne le jazz, elle existe bel et bien, cette évolution... Il y a toujours cette polémique de savoir ce qui est jazz, ce qui n'est pas jazz.
Voilà, c'est la réponse de Duke. Hein, c'est quand ça ne swing pas, c'est pas bon.
Voilà, alors il y a aussi le swing qui est du jazz, puis il y a aussi du jazz qui n'est pas du swing. C'est un cercle vicieux. Je crois qu'en fait, c'est à chacun de se faire sa propre définition de cette musique-là. Je ne pense pas qu'il n'y ait eu une définition de cette musique. C'est à chacun de se faire sa propre définition de cette musique-là. Elle existe, elle a été mise en valeur par de nombreux protagonistes, et on les connaît pour la plupart, et évidemment, il y en a plein qu'on ne connaît pas. Et puis après, c'est à chacun de... C'est très particulier, le jazz. Moi, j'aime bien discuter de jazz avec les gens qui ne connaissent pas cette musique-là. Parce que combien de fois ai-je entendu... Oh là là, moi, j'ai des copains en Bretagne que je revois de temps en temps et qui me disent « Mais Pierrick, on est venu te voir en concert là, l'autre jour. Là. C'est bien sympa ce que tu fais là, mais bon, on dit que c'est bien parce que t'es notre pote, parce qu'on était ensemble quand on était en sixième. » Mais honnêtement, moi, je comprends rien du tout. C'est bizarre. Ouais, je comprends le fait de dire ça aussi. C'est très complexe. Et puis, par moments, il y a des gens qui disent « Oh là là, normalement, je ne suis pas très fan de cette musique-là. Le jazz, j'en écoute pas beaucoup. Mais alors, l'autre jour, je suis allé voir un groupe de jazz qui jouait dans un club. Ça m'a complètement transcendé. J'ai vu des gars qui donnait, qui avait une énergie folle et tout, et du coup ça me donne envie d'en écouter, et j'ai acheté tel album, et qu'est-ce que je pourrais acheter, ça se découvre aussi comme ça, le jazz, en allant écouter
les jouer. Mais voilà, c'est ça, c'est quand on voit les gens, enfin les musiciens sur scène, enfin près de soi, et puis en club, ça, je trouve ça une dimension beaucoup plus forte, plus intime.
Oui, parce qu'on est très proche.
Oui, et là, ça permet de mettre le doigt sur quelque chose de palpable. On a presque la capacité à l'attraper physiquement.
Oui.
Et ça change tout, en fin de compte.
Oui, et puis on a toujours la possibilité, dans un club de jazz, d'aller discuter avec les gars à la fin, de prendre une bière avec eux, ou un verre d'eau, ce que vous voulez. Mais en tous les cas, c'est aussi possible, ce qui n'est pas forcément possible quand on va voir des grandes stars du rock ou de la variété.
C'est sûr. On écoute... Oh la vache, ça passe vite.
C'est vrai. On
écoute si tu vois ma mère, et puis après, je te demanderai si tu as des projets, des concerts, des machins.
D'accord, ça marche.
C'est parti. Thank you.
Thank you.
Jazz Libre, Radio Libertaire, Pierrick, le temps passe à une vitesse
trop
colossale.
Ça fait déjà 10 heures qu'on parle, je vois pas le temps passer.
Des concerts bientôt, alors dis-nous tout.
Oui, alors un concert dimanche là, au Café de la Danse, et là, alors attention, au Café de la Danse avec un groupe qui s'appelle Black Lives Generation to Generation. Et dans ce groupe, il y a Reggie Washington, Gene Lake, David Gilmour, le guitariste. Tous sont des Américains de New York, et c'est un collectif de musiciens que des stars, dans laquelle, une formation dans laquelle j'ai la chance de jouer. J'ai enregistré un disque avec eux dimanche dernier. J'ai fait une tournée, je suis allé jouer en Estonie, en Norvège, en Allemagne. Là, on a joué à la salle Flagey la semaine dernière à Bruxelles, Café de la Danse à Paris. Le disque, c'est absolument incroyable, la puissance de ce groupe. Donc, je fais partie de cette formation. Donc, c'est dimanche au Café de la Danse.
Et à quelle heure ?
20h, je pense. Ouais. Et puis, prochain concert, aussi, je fais une petite intervention. Alors ça n'a rien à voir, mais j'ai un copain qui s'appelle Axel Bauer, qui est connu.
Oui.
Qui est un chanteur de variété.
Cargo de nuit,
qui pour moi est un chef-d'œuvre.
Change de port.
Et qui m'invite sur deux morceaux à l'Olympia la semaine prochaine aussi, le 22.
D'accord.
Voilà. Donc alors, après, j'ai d'autres concerts à venir aussi. J'ai un concert avec Fabien Marie, j'ai un concert avec Christophe Del Sasso sur son hommage à Coltrane.
Ah oui, très très beau.
Voilà,
On l'avait interviewé aussi, Christophe.
Christophe, ouais. C'est un bon copain. Et puis surtout, il y a tout ça. Il y a d'autres concerts dont j'ai oublié le. Je sais plus. Il y en a.
Site internet.
Site internet. J'avoue qu'il n'est pas très actualisé. Mais sur les réseaux, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Instagram, Facebook. Et là, je prépare un nouveau disque, voire peut-être deux. Voilà, je vais faire un disque en quartet. Alors, c'est un truc très spécifique, mais ça sera la surprise. Et j'espère bien que tu m'inviteras pour en parler.
Oui, mais j'ai préparé, je pense, des tickets d'abonnement pour tous les potes.
Voilà, exactement.
Il y a Diego Imbert, il y a Henri Texier, tout ça, quoi.
Bah ouais.
Les habitués.
Ouais.
Et donc le deuxième projet, un quartet, et puis
pourquoi pas notre duo avec Sœur Rubalcaba, on verra bien.
Et alors moi je suis toujours très demandeur de quelque chose, je dis ça à tout le monde mais personne ne m'écoute.
Yves, t'as vu comment il est un peu.
C'est de faire des lives, des enregistrements live.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Alors, pourquoi dis-je une chose comme ça ? Parce que je trouve que le live, même si le son n'est pas forcément... Alors bon, maintenant, on a quand même de quoi faire des choses bien au niveau du son. Mais même si c'est un poil moins bien, je trouve qu'il y a une... Ouais, il y a un truc qui se passe dans les enregistrements live. Et moi, ça me manque, ça, en fait.
Mais est-ce que t'as remarqué quelque chose ? C'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup d'enregistrements live.
Mais non.
Dans de moins en moins, mais dans tout style confondu.
Oui.
C'est-à-dire que les morceaux live, en général, sont peut-être un petit peu plus longs. Maintenant, on est plutôt dans la recherche de la perfection sonore. C'est-à-dire que quand on écoute un disque, on veut que ça soit parfait. Et je ne suis pas sûr maintenant qu'un live ferait l'unanimité. Franchement, j'en suis pas sûr.
Mais pourtant, quand tu as sorti 50-50, le concert au New Morning était digne d'un album live.
Oui, tu m'en avais parlé. Oui, je m'en rappelle bien. Encore une fois, le live, c'est quelque chose, c'est instantané. Je veux bien sortir un live, mais je veux pas être au courant, en fait.
Non.
c'est comme ça, voilà, c'est le meilleur moyen de mettre au pied du mur. Ah, oh, bah mince, j'étais pas au courant.
comment je vais faire pour écouter mes erreurs? Ah bah trop tard. Voilà, c'est voilà. Sorti. Voilà,
c'est ça.
Donc du coup, bah voilà, il y a un album live qui existe et puis j'étais pas au courant et puis voilà. Parce que si on me demande de sortir un album live, alors là, ça va être tordu dans ma tête. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'écoute tout ça pour savoir, pour être sûr que je suis content de tout. Oh là là, parce que je déteste ce que je te disais tout à l'heure en antenne. C'est que m'écouter, c'est pas ma spécialité et je n'aime pas ça beaucoup.
Bon.
Alors. Voilà.
Pierrick, on a plus que 5 minutes à peine.
Ouais. Je te chante une chanson.
Oui, avec plaisir. Une chanson bretonne.
Ma grande spécialité.
Alors, juste une dernière question qui n'a rien à voir. Comment va ta facelle Vega?
Ah, ben elle va très bien.
Ouais, j'ai vu, elle est magnifiquement restaurée.
Il y en a deux.
Ah oui, bon là.
Ouais.
Grand luxe.
Je suis passionné par cette marque. Bon, tu sais, on a 5 minutes, mais il faut quand même que j'explique. Les gens vont se dire, bah, attends, qu'est-ce que c'est que ce mec? Il a des facelles Vega et tout. Mon père tenait une casse quand j'étais gamin, et c'est ma sœur qui a récupéré d'ailleurs son affaire. Et depuis que tout môme, j'avais à 10 ans, j'avais une Simca 1100. Mon père m'avait surélevé les pédales et tout, donc je pouvais conduire dans le chantier. On appelait ça le chantier, c'est le parc où il y avait toutes les voitures. Donc je voyais des 403, des belles voitures populaires des années 60, et ça m'a donné le goût aux vieilles voitures. Donc j'ai eu ma première voiture de collection quand j'avais 18 ans, 19 ans, l'âge de conduire. Donc c'était une Aronde, une Simca Aronde, et on a continué un peu la collection. Puis avec un ami très cher qui a un peu plus d'argent que moi, on collectionne des jolies voitures aussi, des belles voitures comme les Facel Vega. Voilà. Et donc je suis devenu assez connaisseur de cette marque et je fais même partie de l'amicale Facel Vega. Vous saurez tout.
Farpin. Écoute, Pierrick, encore un plaisir. Hein, on refasse d'autres sessions. On va écouter pour terminer Pretty Girl de Billy Strayer,
ouais.
L'alter ego de Duke, c'est le numéro 8. Merci.
Merci.
Encore trop court.
Ouais, trop court. Et prochaine
puis,
fois.
Je sais pas si je pourrais venir au Café de la Danse eu égard à mes obligations personnelles
bien,
en ce moment.
J'entends.
Mais je suis de tout cœur et donc, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller, connectez-vous sur Internet si vous avez pour avoir les concerts. Il n'y a pas des milliers de salles non plus
ouais.
Dans Paris. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais voilà, ça, c'est quand même moins d'une centaine. Donc, Fraterny Swing, soyez forts. Rendez-vous dans 15 jours avec Henri Texier.
Que vous saluerez de ma part.
Eh bien, je n'y manquerai absolument pas, évidemment. Ça va être encore un moment savoureux.
Ah bah ouais, oh là là, quel personnage passionnant et quel grand musicien.
Ouais.
Je l'adore, Henri. C'est un bonhomme super. Quelle chance on a d'avoir un gars comme ça.
On ne peut pas ne pas aimer Henri Texier.
C'est sûr.
C'est impossible.
C'est sûr.
Merci beaucoup, Pierrick. Et voilà, le studio est toujours ouvert.
C'est gentil. Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Bye bye.
Au revoir.
Epsilonia, l'émission toujours dédiée depuis 1986 à la découverte et à la défense des musiques expérimentales, contemporaines, électroacoustiques, improvisées, les musiques bruitistes, ambiantes, progressives, le free jazz, ainsi que des domaines comme la poésie sonore ou le spoken word. Depuis 1986 donc, chaque jeudi à 22h sur Radio Libertaire, Epsilonia. Ce soir, tour et détour par les scènes suisses de l'underground contemporain avec Jason Kahn, Dave Phillips, Terminal C et d'autres encore. Et puis nous écouterons aussi le groupe fétiche de 1988, groupe plutôt underground et pas très connu, groupe Uludag. Aussi, nous écouterons Franck Vigroux qui nous enverra quelques signaux de police concernant les papiers d'identité, les noms, les prénoms, etc. Et Peter Chego et Zoltan Salai, excusez la prononciation, quelques échos de la Transylvanie hongroise. Autant dire que nous continuons à voyager au travers de l'Europe et comme d'habitude, plus de détails sur le programme et les artistes que nous allons entendre ce soir seront consultables sur le blog d'Epsilonia. Alors bon voyage avec tout ce beau monde.